Société Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la spiruline avec le docteur Jean-Louis Vidallo, qui est médecin spécialisé en médecine expérimentale et du sport. Et il vient de publier Spiruline, l'algue bleue de santé et de prévention. C'est aux éditions du Dauphin. Et bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Docteur Jean-Louis Vidallo, dans la première partie de l'émission, on a parlé de la composition de cette spiruline, de la façon dont on pouvait l'utiliser pour lutter contre la malnutrition. On a aussi parlé de la production, entre autres avec Jean-Yves Zungrana, qui est un producteur au Burkina Faso. Plusieurs pays d'Afrique, effectivement, l'utilisent pour lutter contre la malnutrition.
Tout à fait. Alors, le Burkina est sûrement un des pays en pointe et qui bénéficie d'ailleurs d'aide internationale, notamment européenne, pour le développement. Le Sénégal est également un pays qui fait beaucoup pour la spiruline et il y a des programmes actuellement qui sont très intéressants sous l'égide notamment de Madame la Première Dame, Madame Viviane Mouad, la Côte d'Ivoire, le Burundi aussi, mais également donc il commence à y avoir heureusement une propagation de l'utilité de la spiruline, pas seulement pour les pathologies qui ont été énoncées, notamment le sida, VIH et la malnutrition. Car en matière de malnutrition, il faut bien entendre que 75% des 30 millions de morts chaque année dues à la malnutrition sont dues à des malnutritions petite à modérée, légère à modérée, et non pas les grandes malnutritions que l'on voit médiatisées. Donc, il faut...
On sait bien que ça vaut le coup de la prendre en charge le plus tôt possible pour éviter toutes les complications.
Exactement.
Je voudrais qu'on parle aussi des autres intérêts, donc je dirais de la spiruline, pour lutter contre d'autres maladies. Alors, à ma grande surprise, vous avez, dans votre livre, vous dites que ça peut aider à lutter contre les cancers.
Alors... Ça n'est pas seulement moi qui le dis, et ce que vous avez remarqué, que ce qui fait l'originalité et la valeur, je dirais, de cet ouvrage, c'est les 530 ou 40 maintenant références scientifiques qui sont, et vous pouvez les vérifier. Nous avons des publications pratiquement chaque jour, des publications nouvelles qui viennent de tous les continents par rapport à la spiruline. Le gros problème de la spiruline, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est un complément alimentaire et ça n'est pas un simple aliment. Vous avez.
Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question sur le cancer ?
Justement, j'y réponds parce que vous avez tous les jours dans les presses ou au moins toutes les semaines des publications sur les effets anticancéreux contre les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, Alzheimer et compagnie, de tas de produits antioxydants, anti-radicalaires, hein, que sont le brocoli, la tomate,
la grenade,
voilà, la mangue, des tas d'autres chose. Par contre, s'agissant d'un complément nutritionnel, on ne peut pas en parler. Alors qu'il contient tous ces éléments et bien d'autres encore. Alors bon,
je réponds
directement. Au niveau du cancer, vous avez notamment la phycocyanine. Et j'insiste une fois encore sur ce pigment que l'on ne trouve que dans la spiruline. Il y a d'autres algues qui sont intéressantes. La chlorella est très intéressante et contient beaucoup de chlorophylle. C'est un très bon détoxiquant, mais elle ne contient pas de phycocyanine. Cette phycocyanine est un pigment bleu qu'on ne retrouve que dans la spiruline parmi les algues consommables, et qui, parmi ses effets, a un effet anti-COX-2, c'est-à-dire anti-inflammatoire naturel, a un effet stimulant des défenses naturelles, et un effet stimulant les NKC, les Natural Killer Cells, les fameuses cellules tueuses. Notre organisme sait déceler certaines cellules pré- ou cancéreuses et mobiliser certaines cellules, dont ces fameuses NKC, pour les détruire avant que se développe le cancer. J'avais fait faire une conférence il y a quelques années par le professeur Lucien Israël et le professeur Jean-Pierre Michel, l'un cancérologue, l'autre gériatre, hein, qui est sur le thème cancer, vieillissement, même combat, et ce sont effectivement les mêmes éléments qui amènent au vieillissement au vieillissement prématuré, dont rhumatismal de la cellule, et à la cancérisation. Et c'est les mêmes éléments qui permettent justement de prévenir, hein, de prévenir cette...
Et alors dans votre livre, vous citez un exemple, c'est Tchernobyl, au moment de l'accident de la centrale nucléaire. Ça a été, la spiruline a été utilisée pour les enfants et ça a donné des résultats.
Exactement. Donc ça, nous avons des observations absolument formelles qui ont été faites d'abord par les médecins de Minsk lorsque cette catastrophe est arrivée, portant sur plusieurs centaines d'enfants, où on a fait ingérer aux enfants 5 grammes, simplement 5 grammes de spiruline, hein, pendant de l'ordre de 2 à 3 mois, pas plus. Or, 82% des enfants qui ont pris de la spiruline n'ont pas développé de cancer de thyroïde, là où 100% des autres l'ont développé. Les Israéliens ont recommencé l'expérience en amenant des enfants sur le territoire israélien avec les mêmes protocoles, la même méthodologie et les mêmes résultats. Et depuis d'ailleurs, je disais tout à l'heure,
c'est là qu'on a commencé à s'intéresser sur savoir les effets de la spiruline sur le cancer, c'est
notamment,
ça
entre autres, oui. Et sur ce cancer-là, c'est probant, c'est une des raisons pour lesquelles la spiruline en Russie bénéficie donc de l'appellation de, d'algue thérapeutique.
On a Martin qui nous appelle du Togo et qui a une question à vous poser. Martin, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Nous vous écoutons.
Oui, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir si la spiruline peut être consommée, puisque c'est un aliment, peut être consommée par un homme portant ou bien une personne saine.
Voilà. Est-ce que c'est utilisé simplement en cas de maladie ou est-ce que quand on va bien, finalement, on peut prendre en prévention de la spiruline? Alors, docteur Jean-Louis Vidalo.
Je dirais que tout bien portant est un malade en puissance et que le gros problème, c'est qu'on ne sait pas déterminer à quel moment de la journée ou du nictémère notre organisme et nos métabolites, qui hypothalamo-hypophysaire, thyroïdien, hépatique, etc., a des besoins micro-organiques. Or, nous savons que nombre de ces pathologies-là sont dues à des carences micronutritionnelles. Donc, moi, ce que je conseille, effectivement, c'est d'avoir une prise quotidienne, de préférence le matin, de spiruline qui va vous amener absolument tout ce dont l'organisme peut avoir besoin, avec de surcroît les enzymes qui permettent de le fixer là où il y en a besoin quand il y en a besoin.
Voilà, c'est ça. Donc vous dites pour des personnes saines qui ne sont
bien
pas malades,
évidemment.
Ça peut être très intéressant.
Et alors les effets, on les a de manière assez curieuse dans des domaines qu'on n'imagine pas, sur la qualité des cheveux, de la peau, du sommeil, etc. Puisque ça vient normaliser notamment les neuromédiateurs, dont la mélatonine pour ce qui concerne le sommeil.
On a Hello qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Hello, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous vous écoutons.
Salut, je suis le médecin à côté de vous.
Oui.
Moi, mon poids était de 113 kilos à l'époque. Et pour améliorer mon poids, puisque ma taille est de moins 1m84, 85 par là, et je vais vouloir améliorer mon poids. Je l'ai pris en gélule. Trois fois par jour. Et juste après, j'ai remarqué que juste après les prises de ces gélules-là, une semaine après comme ça, j'avais de terribles crampes dans le dos et de véritables douleurs qui ne passaient que juste après des massages, parce que j'avais peur quand même, je ne savais pas ce que c'était, qui me prenait 5 après une semaine comme ça, et j'ai carrément arrêté. J'ai remarqué que c'était après les prises des gélules de spiruline que cette douleur-là intervenait.
Que vous sentiez ces effets secondaires, hein. C'était ça. Alors, docteur,
donc,
voilà.
Moi, ma question,
oui.
Justement, est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on prend la spiruline?
Merci, Hello.
Moi, j'ai arrêté carrément,
oui.
Mais j'ai récupéré puisque j'ai eu le poids idéal que je voulais.
Voilà, d'accord. Docteur Jean-Louis Vidalo, il y a plusieurs questions. D'abord, effectivement, est-ce qu'il y a des effets secondaires à cette spiruline? Puis après, vous allez nous dire aussi comment ça peut servir aussi pour lutter contre l'obésité, les problèmes de surpoids, ce que vient de nous expliquer Hello.
Alors, parmi les effets secondaires, je n'en vois que deux. La très exceptionnelle intolérance à la phéline et à l'alanine. C'est un des acides aminés. Bon, il y a des gens qui sont intolérants à la phénylaline, il faut le savoir. Et puis pour les
qui est une forme d'intolérance alimentaire, alors,
voilà,
tout simplement.
Tout à fait. Mm-hmm. Et puis pour les spirulines qui sont fabriquées sur eau de mer, parce que là, on parle de spirulines fabriquées produites sur des bassins d'eau douce, mais il y en a qui viennent d'eau de mer, notamment d'Hawaï, etc. Il peut y avoir une concentration en iode trop importante, ce qui n'est pas le cas. Alors pour répondre à la question d'Hello, à ma connaissance, les douleurs gastriques peuvent intervenir effectivement, mais qui sont souvent dues à l'excipient. Alors, en quoi était...
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, l'excipient, ce qu'il y a autour
voilà,
de la poudre de spiruline.
Absolument.
En fait.
Donc, quand elle est en comprimé, il y a souvent du stéarate de magnésium, il y a souvent des anti-agrégants, etc. Et en gélule, il faudrait savoir quelle est la composition de la gélule. Est-ce que c'est une gélule végétale? Est-ce que c'est une gélule, au contraire, qui est d'origine animale? Et est-ce que la douleur ne vient pas du contenu de la gélule Donc, ça, je ne peux pas répondre.
Et d'où l'importance de la qualité.
La qualité, exactement. Donc là, il faudrait que Hello nous donne des éléments plus précis pour que je puisse lui répondre hors antenne.
Voilà, on verra peut-être ça du coup hors antenne. Et Hello nous a expliqué qu'en fait, ça l'avait aidé à perdre du poids, effectivement. La spiruline peut servir à ça.
Alors, c'est très vrai. Et ça, on l'a découvert il y a relativement peu de temps. Parmi les acides aminés contenus dans la spiruline, il y en a deux, le phénylalanine et le tryptophane, qui, lorsqu'ils sont détectés de manière pertinente par les centres que nous avons au niveau rolandique et sylvien, qui sont des artères au niveau du cerveau, ont un véritable effet coupe-faim naturel.
Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant et que ça peut aider à perdre du poids, ce que nous a expliqué Hello. Merci beaucoup pour votre appel. Et donc, on essaiera de vous rappeler hors antenne pour savoir quelle gélule vous avez utilisée, de quelle marque. Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions sur cette spiruline. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, on a Ousmane qui nous appelle. Alors, je ne sais pas d'où vous nous appelez. Le Cameroun, je crois que c'est ça, quand je vois l'indicatif. C'est ça, Ousmane?
Oui, bonjour, Claire.
Vous nous appelez du Cameroun?
Oui, du Cameroun.
Maintenant, je connais les indicatifs. J'arrive à dire ça même sans avoir la feuille. C'est pas mal. Ousmane, quelle est votre question?
Alors, ma question est-ce que la spiruline est conseillée pour les diabétiques et pourquoi?
Voilà, alors docteur Jean-Louis Vidalo, est-ce qu'effectivement la spiruline peut être intéressante en cas de diabète?
Tout à fait. Elle va agir notamment sur la libération du sucre en réserve, du glycogène contenu dans le foie et le muscle, qu'on appelle la néoglycogénèse. Et elle va aider les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sont contenues dans le pancréas à mieux fonctionner pour ceux qui ont encore un pancréas fonctionnel. Donc moi, j'ai très souvent vu des confrères me disant tel patient... qui avait telle dose d'anti-diabétique orale depuis qu'il prend la spiruline à des taux inférieurs, est-ce qu'il faut arrêter la spiruline? J'ai dit non, au contraire, diminue donc les antidiabétiques. Donc dans la mesure où ça relance l'activité, les métabolismes.
Donc effectivement, c'est intéressant en cas de diabète, donc pour répondre à la question d'Ousmane. Donc merci beaucoup Ousmane pour votre question. Vous parlez aussi de l'intérêt pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Comment ça fonctionne?
Bien, là encore... parmi les nombreux facteurs actuellement sont reconnus comme responsables des maladies cardiovasculaires, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels la spiruline agit, que ce soit la baisse du mauvais cholestérol, que ce soit la régulation tensionnelle, je crois qu'il y a une question également sur l'hypertension là aussi, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, le produit miracle qui marche sur tout, ça n'existe pas, sauf que on sait maintenant que nombre de ces pathologies-là, que ce soit le diabète insulino dépendant que l'on connaît, que ce soit le vieillissement prématuré, que ce soit etc., sont dues à des carences micronutritionnelles que l'on ne trouve plus dans l'alimentation aujourd'hui.
Étonnant pour moi, c'est de penser que ça peut à la fois servir à lutter contre la malnutrition et contre l'obésité. Deux choses qui, a priori, ce ne serait pas le même aliment qui joue pour les deux. Quoi.
Prenez les protéines. Vous l'utilisez aussi bien pour prendre du poids, pour les sportifs qui veulent faire du muscle, que pour perdre du poids chez les gens qui sont avec des régimes protéinés exclusifs. Là aussi,
c'est une des explications. On a Kazoni qui nous appelle du Burkina Faso et qui a une question à vous poser. Kazoni, bonjour, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. J'ai juste une question. J'aimerais savoir,
que peut apporter la spiruline aux sportifs?
Alors, docteur Jean-Louis Vidalot, qu'est-ce que la spiruline peut apporter à des sportifs?
On est parti pour 24 heures non-stop. Hein. C'est un domaine que je connais bien, effectivement. Alors, pour faire très bref, la spiruline, déjà, et je reprends une fois encore l'importance de la phycocyanine, hein, parce que vraiment, la bonne spiruline doit être garantie en phycocyanine et en avoir suffisamment. Cette phycocyanine, le cœur de la phycocyanine, est très exactement le même que celui de l'érythropoïétine, c'est-à-dire le cœur du globule rouge, à la différence près que dans le globule rouge, vous avez simplement un atome de fer au milieu, alors que dans la phycocyanine, vous avez un atome de fer et un atome de magnésium. Et quelle est l'autre molécule très proche des deux premières qui a seulement un atome de magnésium? C'est la chlorophylle. Logique, puisqu'elle est à l'origine de la vie des animaux à sang rouge comme des végétaux à sang vert. On est d'accord? Donc, ça, elle agit déjà à ce niveau-là comme une super EPO, parfaitement naturelle. Parmi les autres éléments, donc il y a l'effet anti-COX-2, c'est-à-dire anti-inflammatoire naturel, dont on sait très bien que les sportifs ont tous des petits micro-traumatismes répétés. Et surtout, alors un des éléments que nous avons mis en exergue, c'est l'activité de cette fameuse phycocyanine sur la récupération des lactates. Qu'est-ce qui fait, lors d'un effort sportif, d'un effort physique, qu'est-ce qui limite l'activité? C'est l'accumulation de certains, ce qu'on appelle improprement des déchets de l'organisme, qui sont en fait des métabolites, dont les fameux acides lactiques, les lactates. Hein, quand vous courez et qu'au bout de quelques temps, vous avez...
On a soit des crampes, des courbatures, des choses comme ça.
Exactement, vous pouvez toujours essayer de continuer à un moment. Bon. Eh bien, là, lorsque vous prenez de la spiruline, et là, vous pouvez la prendre même pendant la course, à raison d'un gramme toutes les heures, quand vous faites des marathons, etc., ou des courses de longue durée, cette fameuse phycocyanine permet, en fonction de la concentration de lactate dans le sang, de faire sécréter une enzyme qui s'appelle lactate dehydrogénase, qui est une enzyme que l'on sait fabriquer et qui non seulement vient tamponner les lactates au fur et à mesure où elle se produit dans l'organisme pour éviter qu'il s'accumule, mais de surcroît, tenez-vous bien, par l'intermédiaire du foie, par l'intermédiaire du cycle de Krebs, va permettre le recyclage de ces lactates pour les transformer en quoi? En ATP, en indésine triphosphate, c'est-à-dire en énergie. C'est-à-dire non seulement vous n'avez...
Non seulement on n'a plus de crampes, mais on a plus d'énergie. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Donc ça vaut le coup pour des sportifs. Et vous avez fait des études d'ailleurs avec des sportifs. Il y en a certains de sportifs de haut niveau qui l'utilisent et qui disent
bien sûr,
à quel point
bien
ça leur fait du bien. Donc à conseiller. Cazoni, merci pour votre téléphone. On va prendre une dernière question. On a Ahmed qui nous appelle du Sénégal. Ahmed, bonjour.
Bonjour Madame Claire.
Nous vous écoutons.
Bonjour docteur Vidalot, bonjour RFI.
Bonjour.
J'ai beaucoup aimé toutes les vertus que vous avez développées avec ce produit. Et avec des pays comme les nôtres qui ont énormément de problèmes de nutrition, de santé, je voulais souhaiter avoir quelques indications évidemment sur certains centres.
Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver
vraiment toutes les garanties nécessaires vraiment pour une bonne diffusion de ce produit.
Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver cette spiruline? Je vous rassure, vous posez la même question. J'ai posé la même au docteur Jean-Louis Vidalot il y a quelques instants pendant un morceau de musique. Alors effectivement, où est-ce qu'on peut la trouver? C'est compliqué de répondre au Sénégal, où est-ce qu'on peut la trouver? Mais comment on peut être sûr de la qualité? Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner là?
C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que vous ne pouvez pas savoir, y compris chez des distributeurs parfois en pharmacie et des distributeurs réputés être les plus important au niveau européen. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez pourquoi. L'aspirine peut venir de production industrielle et ne pas être nécessairement de bonne qualité. Donc vous avez tout intérêt à connaître la traçabilité,
la filière de production,
depuis la production jusqu'à la distribution et la commercialisation.
Donc pas facile.
Pas facile, sauf que bon, il y a maintenant des enseignes, des logos qui permettent de faire le tri. Mais au Sénégal, nous sommes en train justement de travailler au plus haut niveau de façon à mettre sur place par des réseaux officiels et par les pharmacies.
Un bon réseau de production. Merci beaucoup Ahmed pour votre question et à bientôt. On va terminer, si vous voulez bien, en parlant de la nécessité ou non d'ouvrir des salles de prise de drogue contrôlées.
Priorité santé sur RFI.
Pour terminer, je vous propose d'entendre le point de vue d'un médecin addictologue sur la nécessité ou non d'ouvrir donc des salles de prise de drogue contrôlées. La ministre de la Santé en France, Roselyne Bachelot, s'est prononcée pour l'ouverture des salles de prise de drogue contrôlées. Le Premier ministre, François Fillon, s'y est immédiatement opposé. Docteur Amine Benyamina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous êtes responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif, c'est en région parisienne. Alors peut-être que tout d'abord, ce serait important que vous nous expliquiez c'est quoi exactement une salle de prise de drogue contrôlée.
Alors, ce qu'on appelle une salle de prise de drogue contrôlée, c'est un lieu dans lequel il y a une équipe médico-sociale qui va accueillir des personnes en souffrance avec la drogue, qui sont toutes injectrices de drogue, essentiellement des opiacés, c'est-à-dire des dérivés ou de l'héroïne, et qui, dans des conditions sanitaires et sociales extrêmement encadrées, vont pouvoir s'injecter leurs produits pour éviter qu'il y ait une problématique de dissémination des maladies contingentes à ce type de pratique. Voilà, en gros, c'est un peu ça.
Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intérêt, en fait, c'est la santé de celui qui s'injecte ces produits ?
Alors, l'intérêt est très important. Comme tout le monde le sait, il y a à peu près un mois, une très grande conférence sur le sida. On s'est rendu compte que finalement, il était possible de contrôler cette épidémie ou cette pandémie à condition qu'on puisse attaquer ce qu'on appelle des foyers de dissémination. Parmi les foyers de dissémination se trouve un sous-type de toxicomanes qui sont réfractaires à toute prise en charge, soit de type substitutif, soit de type curatif, quand il en existe, que sont ces injecteurs-là. Et parmi les modèles qui ont montré leur efficacité, c'est le modèle de la réduction des risques, mais de type optimum, c'est-à-dire des personnes qui ne supportent rien d'autre que leur propre produit. Pour pouvoir les contrôler, il faut qu'on puisse les avoir sous la main et leur donner toute la nécessité et tout le confort, entre guillemets, nécessaire pour pouvoir s'injecter, pour éviter de se contaminer.
Ah, j'ai l'impression qu'on vous a perdu, docteur Benyamina. Est-ce que vous êtes là ?
Oui, je vous entends très bien.
Oui, ça y est, vous m'entendez.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon, on vous entend.
Allô ? C'est la raison pour laquelle donc, ce type de structures ont été mises en place dans certains pays.
Voilà, alors justement, quels sont les pays où on trouve ce genre de salles de prise de drogue contrôlées ?
Alors, il y a deux modèles européens intéressants parce qu'ils sont frontaliers, qui ont expérimenté plus que ça ce modèle, c'est la Suisse et l'Espagne. L'Espagne, notamment au niveau des zones frontalières basques espagnoles, le modèle de Bilbao, qui a montré que, donc, en mettant en place ce type de structure, on a grandement diminué les risques de contamination et on a pu mettre en place une politique d'abord de fidélisation de ce type de population qui était des populations qui étaient disparates, exposées et difficilement contrôlables. Et on a montré qu'il y avait vraiment un intérêt important dans la politique de réduction des risques de maintenir ce type d'expérience.
Est-ce qu'on peut dire que la grande majorité des addictologues comme vous sont pour l'ouverture de ces salles ?
Je ne saurais pas vous le dire parce qu'il est important de faire un sondage pour le savoir. Mais je pense que lorsqu'on voit l'expérience espagnole et suisse et d'autres expériences par-ci par-là, quand on lit le rapport de l'INSERM, qui est un rapport mené avec méthodologie de manière scientifique,
qui a été publié là justement au moment de la conférence de Vienne.
On voit un certain nombre de protocoles qui ont été menés avec ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire des chiffres et des résultats irréfutables. Je serais très étonné que la communauté addictologique française se divise. Si division il y a, cette division, je l'espère qu'elle n'existera pas.
Oui, alors on vous a de nouveau perdu, docteur Benyamina. Est-ce que vous êtes là ?
Oui, je vous entends là.
Voilà, ça y est, continue.
Je disais, si division il y a, elle ne sera pas le fait des résultats scientifiques parce qu'ils sont tous concluants, ils vont tous dans le même sens, c'est-à-dire soutenir ce type de démarche dans une politique de réduction des risques. Donc s'il y a division, ça sera probablement de type soit idéologique, soit je ne sais de quelle nature elle peut être.
Et donc qu'est-ce que vous pensez de la position de certains politiques, dont d'ailleurs le Premier ministre François Fillon, qui se sont immédiatement opposés à l'ouverture de ces salles de prise de drogue ?
Là, je sors de mon rôle d'expert, mais je pense que ce qui probablement anime ce type de position, peut-être, quel que soit le bord politique, c'est que le fait d'accueillir quelqu'un et de lui permettre de se, entre guillemets, droguer dans un cadre public, légal et officiel, heurte peut-être l'opinion. Mais vous savez, il y a en 1996, lorsqu'on a légiféré pour la substitution pour les toxicomanes, on nous a traité de dealers en blouse blanche. Donc je ne m'inquiète vraiment pas quand on voit le bénéfice à peut-être donner la chance à cette expérience de montrer que le résultat sera très bénéfique pour la population mondiale et pour peut-être dans cette population diminuer la dissémination d'une maladie grave qu'est le sida.
C'est ça, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on explique vraiment pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, entre autres pour limiter les épidémies de sida, d'hépatite, on peut vite comprendre l'intérêt. Docteur Amine Benyamina, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychiatre et responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif, en région parisienne, et on vous a dérangé pendant vos vacances, donc on vous laisse retourner à vos vacances. Merci beaucoup à vous. Docteur Jean-Louis Vidalot, j'aimerais bien un petit mot de conclusion sur cette spiruline. Pourquoi ça divise autant, d'ailleurs, la communauté scientifique? On a l'impression... Vous nous avez expliqué pendant une heure à quel point c'était bien, et on entend beaucoup de critiques aussi.
Alors, parmi les critiques émanant de la communauté scientifique, on reproche de ne pas avoir suffisamment d'expérimentation et de publication dans les grandes revues que sont les revues à comité de lecture international, le JAMA, le British Medical Journal, etc.
Le Lancet et tout ça.
Voilà. Et c'est vrai que ces publications-là sont réservées de manière générale à des universitaires qui en ont besoin d'ailleurs pour leur profil de carrière, etc. et demandent des budgets importants. Je suis relativement optimiste pour l'avenir parce qu'on commence à avoir maintenant de plus en plus de publications, notamment qui viennent de Chine, d'Inde, extrêmement sérieuses. Les Chinois ont budgété 1000 chercheurs pour développer des expérimentations sur la spiruline et ses effets. Et je pense que d'ici peu, ce sera un combat d'arrière-garde.
Donc ce qu'il faut maintenant, effectivement, c'est plus d'études scientifiques pour vraiment prouver l'efficacité. Docteur Jean-Louis Vidalot, merci. Je rappelle donc que vous venez de publier Spiruline, l'algue bleue de santé et de prévention. C'est aux éditions du Dauphin. Demain, nous parlerons de l'hypertension et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et bien sûr à demain.